retour dans Première Loge, Jessica Leb, toujours avec vous jusqu'à 17h30. Et oui, vous le savez, quand je vous parle de jeux d'évasion, je n'hésite pas à élargir les horizons, bien que ça y est, on est bien lotis à Québec, puisqu'on va avoir 8 entreprises de jeux d'évasion d'ici la fin de l'année. Mais quand vous allez commencer à faire vos premiers jeux d'évasion, vous allez voir très vite que vous allez avoir envie de découvrir les autres entreprises un peu partout au Québec. Pour rappel, un jeu d'évasion, on est dans une salle pendant 60 minutes avec une thématique particulière. On a une mission à accomplir avec son équipe. Et en 60 minutes, on doit résoudre des énigmes, parfois débarrer des cadenas ou déclencher d'autres mécanismes pour entrer dans cet univers. Avec notre sujet d'aujourd'hui, je vous emmène à Laval, du côté de Codex, une entreprise qui nous propose à la fois d'aller dans un vaisseau spatial ou encore dans le temps des Vikings ou encore de l'univers de Lovecraft. On va en parler avec les deux propriétaires, Kevin Curry et Myriam Bonneau-Lefebvre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut.
J'ai eu l'occasion de vous rendre visite à plusieurs reprises, puisqu'évidemment, comme accro de jeux d'évasion, je parcours le Québec pour essayer les différentes salles. Et Codex a déjà vu le jour il y a un an, à peu près, un peu plus d'un an?
Un peu plus d'un an. On a ouvert le 1er septembre 2018, en effet.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous lancer dans cette aventure? Parce que quand même, dans la région de Montréal, au moment où vous lanciez Codex, il y avait pas mal d'entreprises aussi dans votre coin.
Oui, effectivement, dans le fond, nous, ce qui nous a vraiment donné envie de partir en business, c'est que on est des passionnés à la base. On était des joueurs qui adoraient ça. Puis on se faisait toujours des petits rendez-vous après. On allait prendre un verre ou souper. Ça c'est vraiment cool. Ça c'est une opportunité qui aurait pu être encore plus explorée. Puis on s'est dit, ben on a des mots de bonnes idées. Puis pourquoi on n'en partirait pas un nous-mêmes? Donc, voilà.
Et évidemment, quand on décide de faire ça, on sacrifie un petit peu son expérience de joueur, parce que pour mettre toute son énergie dans la création des scénarios, ben on joue tout de suite beaucoup moins chez les autres.
Ah oui, c'est vrai.
Et vous avez choisi Laval. Pourquoi Laval? Parce qu'on aurait pu se dire, ben Montréal, ça aurait été l'occasion. Il y a tout un gros marché qui vous attend aussi.
Ouais, ben en fait, on a décidé Laval premièrement parce qu'on est des résidents de Laval, et deuxièmement aussi parce que Montréal, il y avait déjà beaucoup de joueurs sur le marché. Puis on s'est dit, on avait une belle opportunité d'un local proche du métro quartier, donc juste de l'autre bord de la rue, de transport en commun, super accessible pour tout le monde de la Rive-Nord puis tout le monde de Montréal. Donc on s'est dit, c'est bien situé. Puis pourquoi pas donner un peu d'amour à Laval. Là, il y a des choses à faire là-bas, puis c'est un peu une ville mal aimée, puis on aimerait ça lui redonner un peu, redorer son médaillon.
Et pourtant, elle aussi, maintenant, a beaucoup d'entreprises de jeux d'évasion, mais ça montre que l'industrie va bien, puis qu'il y a beaucoup de créateurs comme vous qui souhaitent se lancer. Alors, pour parler un petit peu des thématiques que vous avez développées, vous êtes l'un des rares vaisseaux spatiaux qu'on peut visiter au Québec, avec Tombeau Spatial, une aventure, évidemment, dans l'espace qu'on va pouvoir tenter. C'est quand même votre tout premier scénario. Il était très audacieux, je trouve, comme thématique.
Oui, en effet, c'est en le fabriquant qu'on s'est rendu compte que c'était plus difficile que ça en a l'air à fabriquer un vaisseau spatial. Mais je pense qu'on s'en est bien tiré. Ça a pris plus de temps que prévu, la construction. Ça reste quand même un décor qui est très épuré, qui est très sci-fi, froid, et comme dans les films de sci-fi.
Effectivement.
Mais faut avoir des effets spéciaux qui fait futuristique, qui est difficile à faire. Des hologrammes, on a réussi à reproduire ça. C'est sûr que c'est pas des hologrammes purs et durs, mais on a fait un effet spécial qui ressemble à des hologrammes. Ensuite, les portes, c'est pas des portes conventionnelles. On a essayé d'aller chercher quelque chose qui est très hors du commun avec ce vaisseau spatial-là.
Parce qu'on va le préciser, quand on va chez Codex, oui, on va accomplir des missions, mais en fait, le concept de Codex en soi, c'est de nous emmener faire des voyages dans des univers parallèles qui sont en 2019, mais qu'on ne connaît pas parce qu'il faut pouvoir y accéder grâce à Codex.
Exactement. On a des téléporteurs. Donc, l'agence Codex a réussi à trouver la formule scientifique pour envoyer les gens dans des univers parallèles, où les trucs dans l'histoire se sont passés différemment. Comme par exemple dans notre vaisseau spatial, l'histoire, c'est que on a eu contact avec les extraterrestres depuis plusieurs années, donc notre technologie a été boostée au maximum, puis c'est pour ça qu'on peut maintenant aller dans l'espace avec ces vaisseaux-là.
Mm-hmm. Donc nous, en tant qu'équipe, on est envoyés en mission pour alors investiguer la disparition mystérieuse des membres de l'équipage d'un vaisseau à la recherche de cette fameuse nouvelle planète habitable.
Exact. Fait que dans le fond aussi, surtout dans le tombeau spatial, il y a comme l'enjeu, tu sais, de la planète n'a plus de ressources, etc. C'est très très actuel. Mm-hmm. Mais tu sais, dans les autres aussi, là, on essaie d'aller faire des jeux qui sont diamétralement opposés l'un de l'autre, autant en type de thématique que de type d'énigme qui va se retrouver dans les jeux, que les effets, que les matériaux qu'on utilise pour la construction, que la technologie qui est utilisée, parce que dans le fond, tu le sais bien, mais chez Codex, on n'a pas de cadenas, donc c'est vraiment plus de recherche au niveau de la fonctionnalité. Mais c'est ça, dans le fond, on essaie de créer des univers complètement uniques et un peu éclatés.
Et c'est cohérent parce que dans un vaisseau spatial, on aurait du mal à imaginer les cadenas, bien évidemment. D'où vous vient ce parti pris? Parce que c'est vrai qu'on le voit dans l'industrie du jeu d'évasion, c'est un peu tout l'un, tout l'autre, ou ça peut être un mélange des deux, c'est sûr, mais il y a des entreprises ou il y a des missions qui choisissent vraiment, on ne mettra pas de cadenas dans la salle. Vous, pourquoi cette décision?
Au moment où on a décidé de créer cette entreprise-là, ça n'existait pas ou très peu. Donc, on voulait se démarquer, on voulait faire de quoi de nouveau dans le marché du jeu d'évasion. Puis, des fois, on en a fait, on trouve que le cadenas n'est pas cohérent dans l'histoire. On se demande pourquoi que la personne aurait mis un cadenas là, ça fait pas de sens. On a décidé qu'on voulait pas ça dans nos salles. Dans la vraie vie, tu mets pas des cadenas sur tes armoires de cuisine, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a décidé de faire ça.
Alors vraiment, si vous devez découvrir Codex, évidemment, je vous recommande. Mais je vous recommande les trois missions, c'est sûr. Mais Tombeau spatial est vraiment une bonne mission pour débuter, c'est vrai, parce que on comprend dans quel univers on rentre avec Codex. Et franchement, j'avais vraiment envie de croire que j'allais m'envoler vers l'espace avec votre vaisseau. C'est très réussi. Vous pouvez accueillir de grands groupes en plus dans cette mission-là. Enfin, c'est très grand comme espace, mais toutes vos salles sont grandes en fait chez Codex.
Oui, ben le fait que les salles soient grandes, mais en fait, ça part un peu d'une inexpérience à faire des plans commerciaux. Ah. Tu sais, 20 par 20 pieds sur papier, ça a l'air petit, mais finalement, quand il faut le meubler, c'est une autre chose. Mais ça nous permet, en fait, de vendre l'immersion, donc de rendre l'immersion crédible, de rendre le scénario crédible. Dans le tombeau spatial, on peut facilement accueillir jusqu'à 10 personnes. Puis dans les deux autres, on peut accueillir jusqu'à 8, même 10, mais on recommande généralement, on recommande à peu près 6 personnes. C'est pas mal le sweet spot pour que les gens aient du plaisir et qu'il y ait personne qui se pile sur les pieds là, mutuellement. Là, ouais.
Parce que même si les salles sont très très grandes, c'est sûr que pour les énigmes, des fois on n'a pas besoin d'être autant pour la résoudre, même si des fois vous allez vous dire avoir beaucoup de cerveau dans la salle, ça peut aider pour la réflexion, mais effectivement, c'est toujours un bon chiffre d'être autour de 6 personnes. Alors, ouais. Une autre aventure complètement différente que vous nous proposez, la deuxième, c'est la nuit du loup et du serpent qui là nous replonge au temps des Vikings, mais ça aurait toujours lieu en 2019 hein, avec le téléporteur.
Exact. Donc, dans le fond, c'est qu'on vous envoie sur le lieu de culte des serviteurs de Loki. Longue histoire courte, il a fait un mauvais coup de trop et les serviteurs veulent le libérer de la prison où les autres dieux l'ont enfermé. Et dans le fond, on vous envoie soit empêcher le Ragnarok ou l'accélérer, mais ça, c'est les joueurs qui doivent décider qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. On leur donne un petit peu de libre arbitre là-dedans.
Mm-hmm. Et là, encore une fois, vous êtes inspiré d'un imaginaire, celui-ci du temps des Vikings pour construire votre salle. Donc, tout ce que vous imaginez chez les Vikings, vous allez pas mal le retrouver dans la nuit du loup et du serpent. Quelle était votre affinité? Encore une fois, bon là, je pense qu'on peut dire que vous êtes la seule salle viking au Québec, à ma connaissance.
Je dirais même presque au monde. On a eu plusieurs personnes qui sont venues d'Europe ou des États-Unis qui ont dit que c'était la seule qu'ils ont vue. Après à peu près 800 jeux. Donc, je suis pas mal sûr
que
la seule au monde. Ça serait à revérifier.
Oui, parce qu'en Scandinavie, ce serait surprenant qu'ils n'aient pas exploité le thème, mais bon.
Oui, bien, c'est ça, on ne comprend pas pourquoi, parce que c'est une thématique qui est super populaire puis super le fun. Mm-hmm. Mais je pense que nous, dans le fond, on est un peu des geeks. En fait, on est pas mal des geeks. Donc, on s'est dit, on va créer des univers qui nous font plaisir à nous. Si les gens les aiment, tant mieux. Puis on s'est dit, il n'y en a pas de vikings, fait que pourquoi pas?
Mais oui, c'était l'occasion de développer vraiment un bel univers aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé les énigmes de cette mission-là parce que, bon, bah pareil, moi, ça y est, nous, on a passé notre cap de 200 jeux en fin de semaine. Je trouvais que c'est difficile de trouver des énigmes originales à un moment donné, mais vous avez réussi à faire des choses qu'on n'avait pas vues ailleurs, qui sollicitent d'autres sens aussi auxquels on est habitué. Donc, bravo pour ça, parce que c'est pas évident de réinventer la roue à un moment donné, hein. On a des mécanismes d'énigmes qui existent un peu partout.
Oui, absolument. Ben, tu sais, nous autres aussi, on en fait vraiment beaucoup. Fait que c'est facile de voir qu'est-ce qui a été fait, mm-hmm. puis ben, de ne pas reproduire la même chose, en fait. Ça prend un petit peu d'imagination, c'est sûr, mais il faut partir, faut que tu aies dans ta tête, tu dises, je veux que ton énigme fit dans la thématique. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans le temps des Vikings? C'est sûr qu'il y a beaucoup de bois, beaucoup d'énigmes qui a rapport aux dieux, ou à la bataille, aux guerres. Donc, faut tout que tes casse-têtes aient rapport à cette thématique-là. Donc, d'autres choses. C'est très manuel aussi, comme puzzles. Beaucoup de manipulation, beaucoup d'observation dans celui-là.
Ouais, puis on veut aussi que toutes les types d'intelligence soient mis à contribution. Donc, on veut pas... Mettons que quelqu'un est plus cérébral, bon, on veut qu'il y ait quelque chose à faire durant le jeu. Si quelqu'un est un petit peu plus manuel, on veut que la personne se sente interpellée aussi durant le jeu à un moment donné, parce que si ça, toutes les énigmes restent pareilles ou même tout au long de 60 minutes, ben, il y a quelqu'un à quelque part qui va pas y trouver son compte, puis c'est plate. On veut pas ça. On veut que les gens aient du plaisir. Nous, si on pouvait avoir 100% de taux de réussite, on serait très heureux. On veut que tout le monde ait du fun puis se rende jusqu'à la fin.
Mais c'est drôle que vous disiez ça parce que effectivement, on a des affinités aussi avec certaines missions. Hein. C'est senti peut-être plus utile chez les Vikings que dans le tombeau spatial, pardon. Moi, ça a été mon cas. C'est pour ça que je le dis. Et je pense que c'est effectivement parce que les énigmes me correspondaient mieux dans l'un que dans l'autre, et par rapport à mes coéquipiers aussi qui étaient peut-être plus à l'aise dans l'un ou dans l'autre. C'est bon de le dire. Et enfin, le petit dernier, celui qui a ouvert ses portes avant l'été, le reflet de la folie, une aventure plus lugubre, dans un univers plus à suspense, angoissant, qui vous a été inspiré par l'écrivain Lovecraft.
Exact. Donc, moi, je suis pas une fan d'horreur qui fait peur, qui fait sursauter. Donc, il n'y a pas de saut en tant que tel dans le jeu, mais on aimait des ambiances glauques, un peu angoissant, juste est-ce que je suis censée mettre ma main là-dedans? C'est contre-intuitif, on veut que les gens se questionnent, puis oui, vraiment contre-intuitif, c'est vraiment ça qu'on voulait aller chercher comme feeling avec ce jeu-là. Mm-hmm.
Donc on pense à investiguer dans l'appartement d'un chercheur, en fait, qui a une grande renommée, qui a une belle carrière, ancien professeur d'université, qui s'intéresse aux sciences occultes, mais depuis le décès de sa femme, il a un comportement étrange, et puis il finit par disparaître finalement.
Exact.
Et donc, le professeur décide d'investiguer ce que Codex fait, le multivers, le voyage entre les univers. Puis, il réussit à ouvrir une faille dans sa maison, d'où sa disparition. Sauf que cette faille ouvre vers un monde très lugubre, très monstrueux. Donc, on envoie les agents Codex dans cette faille, dans sa maison. Puis, ils se rendent compte que ce monde est peut-être un peu dangereux, mais il faut donc refermer la faille entre ces deux univers.
Et donc, c'est à nous, hein, quand on dit agent Codex, c'est à nous d'aller voir ce qui se trame là-dedans. Donc, évidemment, on n'est pas sûr de ce qui se passe. Hein. Au début, ça a l'air d'un environnement très anodin pour finalement découvrir ce qui s'y passe réellement. Ben, on l'a fait en fin de semaine et c'est vrai que j'ai adoré l'univers, la progression de cet univers-là aussi, la manière dont vous surprenez le joueur au fur et à mesure des découvertes dans le jeu. Vous êtes énormément amusé dans le décor aussi, dans l'exploitation du décor. Et quand vous parliez de l'univers geek qui vous va très bien d'ailleurs, eh bien on en aura aussi pour son argent quand on va aller dans cette salle-là, si vous êtes amateur de références de Lovecraft bien sûr, et puis peut-être de jeux vidéo aussi. Je pense que ce scénario-là va beaucoup vous parler. Et chapeau aux mécanismes que vous avez développés pour résoudre les énigmes. Il y a quand même des choses très ingénieuses que vous avez trouvées pour certaines énigmes, et c'est pas de la grosse technologie, c'est plus des objets techniques qu'on peut retrouver dans nos cours de technologie, par exemple au secondaire, que vous avez exploité pour votre jeu.
Ouais, ben on s'est dit l'élément en particulier dont tu parles, dont je ne ferai pas de spoilers.
Ben non.
On s'est dit c'est un professeur universitaire. Donc, quelque chose un peu scientifique, mais quand même étrange. Quand on a connu l'existence de cette chose, on s'est dit, faut absolument implémenter ça dans le jeu. C'est tellement... c'est juste bien. Ça fitait juste bien. C'est exactement ce qu'on recherchait.
Beaucoup de belles manipulations à faire dans ce jeu-là, vraiment, c'est à essayer. Donc, le reflet de la folie, c'est le petit dernier qui a vu le jour avant l'été. Donc, c'est pour ça que je vous recommande d'aller faire l'escapade à Laval, puisqu'il y a 3 belles missions qui vous attendent chez Codex, si vous voulez essayer le tout. Comment ça se passe pour vous? Vous êtes ouvert tous les jours?
Presque tous les jours, on est fermé mardi et mercredi, sauf qu'on est prêt à ouvrir pour vous si vous voulez. Absolument, venez un mardi ou mercredi, on est prêt à prendre les appels puis ouvrir juste pour vous.
Donc, si jamais il y a des gens de Québec qui nous écoutent puis qui disent « c'est mardi, mercredi que je vais à Laval », on peut vous contacter quand même. Je rappelle l'adresse du site internet codexescapegames@.com pour retrouver l'émission dont on vous a parlé et réserver votre place, puisque ça se passe essentiellement en ligne.
Exactement.
Mais on peut vous appeler, voilà, pour le mardi ou le mercredi, on l'aura compris.
Oui, ben en fait, vous pouvez m'appeler tout le temps, ça sonne directement sur mon téléphone et ça me fait plaisir de vous répondre.
Merci beaucoup à tous les deux, Kevin Curie et Myriam Bonneau-Lefebvre. On vous souhaite une belle continuation à Laval et on incite tous les gens de Québec à venir vous voir.
Excellent, merci beaucoup.
Merci. Propriétaire de Codex, je vous le rappelle, jeu d'évasion à Laval. Je vous l'ai dit, je vous incite à faire des kilomètres pour découvrir cette belle industrie créative au Québec qui est en perpétuelle évolution et croissance surtout. On continue en musique avec un artiste qui nous fait languir.